La revue Retraite et Société organise chaque année des exposés. Ces rendez-vous, sous forme de journée d'études, sont l'occasion de revenir sur un dossier publié dans la revue et d'en débattre. Des auteurs ayant participé à un numéro et des experts scientifiques de diverses disciplines peuvent ainsi croiser leurs points de vue. Ces rencontres sont l'occasion de favoriser le dialogue et de mieux appréhender les enjeux sociétaux. La journée d'études du 31 janvier 2017, intitulée « Pénibilité, tout compte fait », est coordonnée par Annie Jolivet, économiste, et Serge Volkoff, statisticien et ergonome au Centre d'études de l'emploi et du travail. Elle fait suite à leur numéro « Pénibilité, un compte à rendre », on écoute leur introduction.
Donc moi je suis chargée de faire une petite introduction générale, mais qui ne va pas être très longue. Le compte personnel de prévention de la pénibilité, j'aime bien déployer le titre complet, qu'on résume souvent par compte pénibilité ou C3P, est un dispositif récent qui a suscité beaucoup de débats, à la fois au moment de la discussion de la loi qui l'a mise en place, et puis au fur et à mesure de sa mise en œuvre, puisqu'elle a été progressive. Et finalement, aujourd'hui, sans faire exprès, c'est une date un peu marquante puisque c'est la date à laquelle les entreprises doivent livrer au plus tard leur déclaration pour les 6 derniers facteurs de pénibilité qui sont entrés en vigueur au mois de juillet. Donc on est vraiment à la fin de la mise en œuvre de l'ensemble des facteurs de pénibilité. Alors ceci dit, quand on a préparé le numéro de Retraite et Société, quand on a préparé cette journée, on n'a pas souhaité rester sur le niveau des débats sociaux et des débats publics. Le compte pénibilité, il y aura sans doute sa place, puisque son existence pourrait être remise en cause dans les mois ou les années qui viennent. Mais on a plutôt souhaité convoquer les différentes disciplines, différentes approches pour enrichir la réflexion sur ce compte. Alors du coup, je me suis fait une petite liste sur ce qui me semblait être utile comme approche et comme réflexion. Alors pour commencer, il nous semble important de sortir d'une approche un peu immédiate d'un dispositif qui vient d'être mis en place pour prendre un peu de recul. D'abord considérer tout le processus qui a pu conduire à sa création et à sa mise en œuvre. De ce point de vue-là, le compte pénibilité est déjà l'objet d'une courte histoire au regard de certains critères, mais déjà d'une assez longue histoire. Puisque s'il a été créé en 2014, il a en fait, ses prémices remontent à la préparation de la loi sur la réforme des retraites de 2003. Donc on a déjà en fait pratiquement une quinzaine d'années d'ancienneté, avec sur cette période-là des négociations interprofessionnelles, des lois sur la réforme des retraites, une loi sur un dispositif de retraite anticipée pour pénibilité, des incitations à la négociation, et puis finalement le compte pénibilité. Avec tous les avatars dont j'ai parlé pour sa mise en œuvre progressive. Donc on a déjà une histoire d'une quinzaine d'années, et en fait, donc Anne-Sophie nous le montrera, nous en parlera très certainement, on peut remonter évidemment plus loin à des dispositifs antérieurs ou à des débats et des contextes très différents, mais qui ont à voir avec les questions qu'on se pose aujourd'hui sur la pénibilité, sur les conditions de travail. Donc voilà, l'approche historique dans toutes ces dimensions est évidemment très riche pour se sortir du contexte très proche et essayer de prendre un peu de hauteur. Ensuite, toute la question des enjeux pour les personnes qui sont exposées à certaines conditions de travail, à la fois des enjeux en termes de santé, mais aussi en termes de parcours professionnel, de mobilité, sont des enjeux qui peuvent être abordé avec des approches alors épidémiologiques, ergonomiques, sociologiques, et l'ensemble de ces aspects, enfin de ces approches-là, permet d'avoir une réflexion plus riche sur ce que peut, ce qui peut être à l'origine d'une réflexion sur la pénibilité et aussi l'enjeu d'un dispositif comme le compte pénibilité pour les personnes qui sont concernées. Le troisième enjeu ou le troisième point d'intérêt, c'est tout ce qui concerne l'évaluation des populations exposées, donc avec toute la difficulté que ça peut comporter, mais aussi l'évaluation des impacts d'un dispositif comme le compte pénibilité, qui, elles, vont amener à solliciter une approche statistique, là aussi dans toute la richesse des méthodes qui peuvent être proposées, et en mobilisant aussi une palette assez riche d'enquêtes statistiques de différentes natures, donc des enquêtes régulières, mais aussi des enquêtes plus, plus au coup par coup, des enquêtes longitudinales qui, là aussi, donnent beaucoup d'éléments de réflexion sur les questions de parcours de santé et sur le nombre de personnes concernées et l'impact d'un dispositif comme celui-là. Le quatrième, si je ne me trompe pas, passe en fait par tous les éléments juridiques qui concourent à la mise en place, au fonctionnement de ce dispositif. Alors on aura sans doute l'occasion d'en parler, mais le dispositif compte pénibilité n'est pas en fait isolé, il est dans un ensemble législatif plus large. Et de ce point de vue-là, avoir une approche juridique assez complète sur la façon dont fonctionne ce dispositif, ses relations avec d'autres dispositifs législatifs, ces effets incitatifs qui peuvent être plus ou moins indirects, plus ou moins diffus, et qu'il faut aussi comprendre comme des mécanismes incitatifs en lien avec ce compte pénibilité. Évidemment, tout ça, c'est des choses que travaillent les juristes, et une approche juridique de ce point de vue-là est tout à fait judicieuse et intéressante. Et le dernier point, c'est une réflexion sur les compromis qui sont établis à l'occasion de la mise en place d'un dispositif comme celui-là. Alors c'est un lien avec le débat social, c'est la question du coût de ce dispositif, des investissements, formation, amélioration des conditions de travail qui peuvent être mis en place en lien avec ce dispositif. Et c'est aussi toute la question des compromis sociaux et des compromis politiques qui sont à la base de l'élaboration d'un dispositif de ce type et qui peuvent aussi expliquer dans le futur l'évolution éventuelle d'un dispositif de ce type, puisqu'il n'est pas figé a priori. Donc là, j'ai mis dans mon cartable l'idée qu'on pouvait solliciter des approches sciences politiques, sociologiques à nouveau, économiques. Et évidemment, l'intérêt de citer toutes ces différentes approches, c'est aussi de ne pas les prendre les unes et les unes... Je suis perturbée par l'arrivée de Thomas Coutreau. Donc l'intérêt, c'est aussi de se dire que ces réflexions-là ne doivent pas être forcément disciplinaires, une discipline par une discipline, mais elles doivent pouvoir convoquer plusieurs de ces disciplines pour enrichir la vision et ne pas en rester à une vision trop restreinte et trop fermée sur le dispositif compte pénibilité. Voilà, donc le numéro de Retraite et Société a rassemblé certaines de ces approches, et dans cette journée, on vous a proposé un plateau un peu différent d'intervenants, évidemment très intéressant, que Serge Volkov va vous présenter.
Voilà, alors pour le déroulement de cette journée et pour le choix des orateurs, c'est ce que Annie disait à la fin. Évidemment, on a eu un critère de qualité ou de qualité attendue des intervenants. On a essayé de faire appel à des collègues dont on avait des raisons de penser qu'ils avaient des choses importantes, intéressantes et rigoureuses à présenter. On a aussi choisi, comme d'ailleurs, dans une large mesure, dans le numéro de Retraite et Société, de coller au compte pénibilité. Parce que la pénibilité, dans les acceptions courantes et même dans certains débats scientifiques, est une notion plus vaste, à l'intérieur de laquelle les questions dont on traite quand on parle du compte, on occupe une partie importante, intéressante, mais une partie seulement. Alors, comme le papier que j'ai fait moi dans ce numéro de Retraite et Société, je ne vais pas le présenter là, avait justement pour but d'indiquer qu'on pouvait aussi s'intéresser à d'autres notions de la pénibilité que celle qui est prise en compte par le compte, pour dire vite, dans le compte, les caractéristiques du travail qui ont des effets avérés, probabilistes en tout cas, sur la santé au grand âge et sur l'espérance de vie, on voit bien que au jour le jour, au mois le mois, beaucoup de travailleurs et de travailleuses éprouvent, pour des raisons diverses et sous des formes diverses, des formes de pénibilité qui leur rendent la vie de travail difficile. Alors, on parlera de ces autres aspects de la pénibilité pour autant que ça viendrait dans le débat, mais ça n'est pas le sujet ni de ce numéro de Retraite et Société, ni de la programmation de cette demi-journée. Alors, l'autre choix que l'on a fait, et ça, c'était déjà perceptible dans les éléments qu'Annie vient d'évoquer, c'est de ne pas éviter les sujets qui fâchent. Sur lesquels il y a des débats, des tensions, des hésitations, où il y a eu, où il y a, dans cette longue période d'une quinzaine d'années que Annie vient de rappeler, il y a eu vraiment des pommes de discorde, il y a toujours des pommes de discorde, avec des arguments parfois très construits et très fondés, parfois un peu sommaires, Et évidemment, la démarche scientifique dans cette affaire-là consiste à essayer de faire en sorte que ces arguments soient le moins sommaires possible, qu'on instruise vraiment ces questions qui sont des questions facteurs de tension dans le débat social ou dans le débat social et politique sur ces affaires-là. Alors, quatre intervenants et quatre questions. Je dirais cinq intervenants et cinq questions, même si la dernière intervenante aura un statut et un mode d'intervention un peu différent. La première question est quand même de savoir, est-ce que c'est sorti de nulle part, cette affaire-là ? Est-ce que c'est une lubie un jour d'un responsable politique ou de quelques responsables politiques dans des cabinets ministériels ou de quelques responsables syndicaux à l'occasion de la préparation de la réforme des retraites de 2003, comme l'a rappelé Annie, qui ont sorti ça de leur poche ? Alors, non. Dans l'héritage de l'histoire sociale et de l'histoire du travail dans ce pays, ces affaires-là ont bel et bien occupé par moments le devant de la scène, ou en tout cas une place importante à diverses époques. Et une bonne partie des tensions et des discussions à l'œuvre aujourd'hui étaient déjà présentes. L'article de Anne-Sophie dans ce numéro, c'est peut-être assez dans cette idée-là aussi que tu vas intervenir, pointait bien le fait qu'il y avait diverses acceptions de ce que pouvait être une compensation de la pénibilité et que ces diverses acceptions, pour partie contradictoires, pour partie articulées entre elles, sont toujours celles entre lesquelles on tâtonne un peu aujourd'hui.
Alors, je ne vais pas dire à sa place lesquelles, elle aura l'occasion de le faire bien mieux que je ne pourrais. Une deuxième question, c'est combien ça va coûter. Et donc, pour savoir combien ça va coûter, si on fait une chose pareille, combien ça fait de personnes qui vont avoir combien de points. Et derrière ça, une question préalable et sous-jacente à celle-là, qui est-ce qu'on a les outils qui permettent d'évaluer ça correctement. Alors, on a des outils qui permettent d'évaluer ça correctement. Est une question elle-même discutée par les auteurs eux-mêmes des travaux statistiques dans ce domaine-là. On avait opté dans le numéro pour une interview de Thomas Coutreau et de Sébastien Roux sur toute une phase de travaux de la DARES pour essayer de décompter aussi convenablement que possible. Phase délicate parce qu'ils étaient à la fois avec des problèmes de rigueur scientifique de ce qu'ils faisaient, de praticabilité technique en fonction des outils qu'ils avaient, et d'être en prise sans y être inféodé sur le débat social et politique du moment qui lui-même n'a pas cessé de bouger. Donc par moments, ils étaient un peu en avance sur des mesures qui allaient être discutées et par moments, un peu en réaction sur des inflexions qui venaient de la demande politique ou sociale. Alors, ça, je ne veux pas entrer trop dans les détails, je ne sais pas sous quel angle Thomas a, de façon précise, prévu son exposé, mais en tout cas, il y avait ce contexte-là d'essayer d'aller le plus loin possible dans ce que les chiffres peuvent dire sur des estimations de nombre, et ceci étant éminemment dépendant des notions, des acceptions qu'on retient, des seuils qu'on adopte, etc. La troisième question, pas qui fâche, mais enfin qui pose problème, c'est est-ce que c'est un chien dans le jeu de quilles du droit du travail au regard des questions de prévention plus généralement. Et ça, c'est une préoccupation dont on est nombreux à pouvoir témoigner qu'elle est largement partagée, y compris par exemple par des responsables syndicaux, qui tout en souhaitant un progrès social dans ce domaine-là, souhaitaient éviter, étaient attentifs à ce que ça ne devienne pas un piège. C'est-à-dire une sorte de dispositif qui fonctionnerait comme solde de tout compte et au fond, au détriment des actions de prévention qui sont tout aussi importantes, voire davantage, pour la santé publique, la santé des travailleurs, leur avenir, etc. Cette question mérite un abord juridique, vient de dire Annie. Abord juridique traité dans le numéro de retraite et société que vous avez donc maintenant par deux auteurs, Sophie Fontenay-Quinton et Pierre Verquin. Et il sera traité ici aussi, je vais traiter Hervé Lanouzière de juriste, en partie tu l'es, hein, voilà. Tu écris dans la semaine sociale l'ami, voilà. T'as été inspecteur du travail, donc rien de ce qui concerne le droit du travail ne t'est étranger. Mais en même temps, Hervé Lanouzière a d'autres casquettes dans cette affaire parce que il est un peu aujourd'hui l'un des acteurs très très directs, justement de ce volet d'articulation entre le compte et la prévention, puisque l'ANACT qu'il dirige a pour fonction d'accompagner des entreprises qui essayent d'améliorer leurs conditions de travail et, entre autres, de faire reculer la pénibilité. Accessoirement, mais ce n'est pas un détail, Hervé était chargé très précisément de l'un des items du compte pénibilité de travail répétitif. Il remet une note précise dans ce domaine-là qui puisse permettre d'instruire, sur ce cas du travail répétitif, quelque chose qui soit à la fois pas trop compliqué et aussi près que possible de l'activité de travail. Et qui ouvre à la fois à la possibilité de choisir qui doit bénéficier du compte et à la possibilité de repérer des moyens de prévention. Donc, je pense que, enfin, nous avons pensé qu'il était probablement un interlocuteur intéressant sur cette question, encore une fois épineuse, des liens de convergence ou de contradiction entre le compte et les politiques de prévention. Et puis le quatrième et dernier point qui a fâché, dont moi je dirais qu'il me semble qu'il fâche moins, c'est-à-dire que cette période-là de multiples débats scientifiques et sociaux a bien fait avancer les choses, c'est au fond sur quoi se fonde-t-on comme connaissances de base qui permettent de dire que le travail joue un rôle sur l'espérance de vie et sur la santé au grand âge, puisque c'est ça qui sont les deux piliers de l'esprit même du compte pénibilité, tel que, par exemple, le rapport Struyou de 2003 les présentait. Alors, c'est mon impression personnelle, et je ne sais pas si Gérard Lasfar, qui interviendra tout à l'heure, la partage, il me semble qu'on est quand même moins dans la dénégation aujourd'hui. Pratiquement plus personne, maintenant, ne dit « Oui, mais, je ne sais pas quoi, comme il y a à côté le tabac, on ne peut pas du tout prouver que les toxiques professionnels sont un facteur de risque de survenue à terme de cancer bronchopulmonaire. » Ce discours-là, je n'ai pas l'impression de l'entendre beaucoup, alors que j'ai l'âge ici pour me souvenir d'une époque où il était fortement présent, voire prédominant, c'est-à-dire l'idée que c'était d'abord le hors-travail. Alors bien entendu, hein, personne dans ceux qui utilisent, rassemblent ou produisent des recherches sur la santé, les relations santé-travail à long terme, ne prétend que le hors-travail ne joue pas de rôle. Évidemment, il joue un rôle, et évidemment, c'est par des calculs de risques attribuables, de risques relatifs, etc., qu'on arrive à démontrer que le travail a sa part, tout simplement, comme n'importe quelle caractéristique de la vie humaine. Alors, Gérard Lasfargue a donc été l'auteur d'un rapport qui a fait date en 2005, qui a peut-être contribué aussi à faire reculer cette dénégation dont je parlais à l'époque. Rapport toujours téléchargeable sur notre site, au Centre d'études de l'emploi et du travail. Les connaissances ont évolué depuis. Bonne partie des connaissances qui étaient là-dedans restent parfaitement valables tout de même, il me semble. Dans le domaine plus particulier du travail de nuit et des horaires décalés, qui sont ceux qui sont pleinement à l'œuvre là, puisque depuis le 1er janvier 2015, ça fait partie des items où, pour le coup, il y a constitution de points pour le compte. L'ANSES, dont Gérard Lasfargue est directeur général adjoint scientifique, si je n'ai pas dit les adverbes dans le bon ordre, je suis désolé, a commis, comme certains d'entre vous le savez peut-être, une très intéressante synthèse des connaissances, un rapport d'expertise sur ces questions-là. Donc ça valait la peine aussi de profiter de cette journée pour actualiser sur ce volet, mais peut-être sur d'autres, les connaissances disponibles. Voilà. Alors, dans la fin de l'après-midi, il y aura donc une cinquième intervenante, mais qui ne sera pas intervenante sous la forme d'un exposé, qui est Emmanuelle Hirschhorn, qui est la directrice pénibilité à la CNAV, et on sera amené à lui poser quelques questions sur son expérience actuelle, en plein sur le feu, si je peux me permettre, de la mise en route de ce dispositif et de la manière dont ça s'est passé ces derniers mois pour les premiers bénéficiaires. Voilà, alors, la ligne générale, c'est que chacun des orateurs aura un quart d'heure pour s'exprimer, mais il y aura une demi-heure de temps. Par conséquent, vous êtes tous et toutes très vivement conviés à intervenir pour questions, remarques, témoignages, critiques, enfin tout ce que vous voulez. C'est aussi l'esprit de cette rencontre. Je crois que c'est l'esprit de ces rencontres de retraite et société, de laisser un large espace à toutes les questions que l'on souhaite.